Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage. Mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence, prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre.
En 2020, Vanessa Springora, que l'on vient d'entendre, publie Le Consentement. Elle raconte l'emprise d'un écrivain célèbre quinquagénaire qu'elle a subi adolescente dès l'âge de 14 ans, un chasseur et une proie. J'ai envie de rajouter parmi d'autres. Le livre est un choc, entraîne des poursuites judiciaires, un vote au Parlement sur l'âge du consentement et une libération de la parole sur les abus subis par les mineurs. Un récit, puis un film, et aujourd'hui une pièce de théâtre interprétée par Ludivine Sagnier. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Au moment des saluts, on voit sur votre visage une émotion qui, de mon point de vue, n'est pas seulement de l'ordre du plaisir de l'actrice qui reçoit les félicitations du public. Est-ce que je me trompe ?
Disons que le moment des saluts, c'est un moment de relâchement. Je m'efforce durant toute cette pièce de transmettre une parole en essayant de garder une espèce de dignité, en tout cas de ne pas m'apesantir sur l'effet que ce texte produit sur moi. Et c'est vrai qu'au salut, la pression retombe et il arrive parfois que je sois très émue. Ouais.
Et le spectacle commence, si on doit parler du début, par un silence, qui est très volontaire aussi.
Mmh. Oui, c'est un silence et une espèce de moment de communion entre moi et les spectateurs. Une espèce de sollicitation de ma part, silencieuse, à leur dire « ben voilà, on va passer ce moment ensemble, ça risque d'être difficile, mais on va y arriver ».
Oui, parce que Le Consentement, ce n'est pas n'importe quel spectacle et ce n'est pas non plus n'importe quel texte. D'ailleurs, le jeu de Vanessa Springora n'est pas celui d'un personnage, puisque c'est son récit, c'est celui d'une enfant, d'une femme vivante aujourd'hui. Est-ce que pour la comédienne que vous êtes, Ludivine Sagnier, ça change quelque chose ?
Disons que il y a plusieurs axes de lecture dans cette pièce, parce que Vanessa Springora, au moment où elle écrit le texte, elle a 40 ans passés. Donc il y a le regard de cette femme qui a fait ce travail de résilience, de conciliation, de reconstruction. Mais il y a beaucoup de moments dans le spectacle où on suit la jeune fille qu'elle était. Donc on commence avec Vanessa à 5 ans et puis donc voilà, on la suit à travers plusieurs étapes. C'est un travail délicat parce que c'est différents points de vue, effectivement.
C'est un récit, ça a donné lieu à un film. Aujourd'hui, c'est du théâtre. Ça permet quoi, le théâtre, par rapport à cette parole, à cette sensibilisation aussi du public à cette question des abus et de l'emprise?
Ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est que de même que dans la littérature, il y a ce pouvoir de suggestion. C'est-à-dire qu'on ne plaque pas les événements trop violemment. Mais le rapport physique, la présence physique entre l'actrice et les spectateurs crée un moment de communion collective, un espace dans lequel on peut tous s'interroger en même temps sur nos responsabilités, sur notre culpabilité et réfléchir à comment protéger les générations à venir.
Depuis une vingtaine d'années, on vous a vu surtout au cinéma, Ludivine Sagnier, notamment avec Christophe Honoré ou François Ozon, dont vous êtes l'égérie. Finalement, vous avez fait peu de théâtre, donc qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui a déclenché ce spectacle? Vous avez dit tout à l'heure les effets que produit ce texte sur moi.
Oui, il est vrai que j'ai pas fait beaucoup de théâtre parce que les projets auxquels j'ai pas donné suite n'étaient pas des projets qui justement m'amenaient vers une sensation extrême. Et je me disais pour pour s'engager dans le théâtre, parce que c'est un vrai engagement, il faut ce côté, pour moi, hein, expérimental. Il faut expérimenter une sensation, expérimenter un texte fort, expérimenter un auteur. Et ce défi qui était de reprendre le texte de Vanessa seule en scène, ça représentait suffisamment de challenge. Je ne pensais pas en être capable. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis allée, bien sûr.
Mais il vous a touché, ce texte ?
Évidemment qu'il m'a touché. Il m'a bouleversée. Il m'a bouleversée et il me bouleverse jour après jour. Je pense que c'est ça qui est difficile aussi. C'était ça qui était difficile dans le... Dans la construction du spectacle, c'était de me démunir, moi, de ma colère, de la colère, du dégoût que j'avais en lisant ce texte, étant moi-même mère de famille, et ayant des filles adolescentes. J'étais révoltée par cette histoire. Or, le bon endroit pour transmettre cette parole, ce n'est pas la colère. Parce que si on impose de la colère, si on impose du pathos, alors le spectateur, il est accablé et il n'a plus l'espace de réfléchir. Donc, il fallait trouver la bonne distance, la bonne justesse pour que cette parole soit transmise.
Un récit et un spectacle implacable pour dire l'emprise amoureuse et sexuelle, pour dire l'abus. Mmh. La libération est au cœur de la parole aujourd'hui dans De Vive Voix avec vous, Ludivine Sagnier. On se retrouve juste après Najoy Belhadj. C'est une nouvelle voix de la chanson française avec un premier album, Wavering, et ce titre « Si jamais ».
Si jamais tu voulais me retrouver sur la berge, j'y serai demain. Je t'attendrai sur l'herbe en repensant tous mes rêves. J'y serai demain. Je serai patiente, pourrai m'étendre et ressentir le mouvement de l'eau qui danse. Je sens qu'elle vibre, mais ne sais pas encore comment. Si jamais tu voulais m'offrir un verre, j'y serai demain. J'étendrai tout mon attirail d'assiettes et de couverts. Chose ne dure qu'un temps. Je m'émouvrai, te retiendrai, mais ne sais pas combien de temps.
Najoy Belhadj sur RFI, mais sur RFI aussi, la comédienne Ludivine Sagnier, aujourd'hui dans De Vive Voix, qui fait entendre au théâtre les mots de Vanessa Springora dans Le Consentement. Vous aviez lu ce livre à l'époque, il y a 4 ans, quand il est sorti, ou plus
oui,
tard?
Oui, je l'ai lu. Non, je l'ai lu au mois de janvier 2020, quand il est sorti. C'est Sébastien Davis, le metteur en scène, qui m'a poussé à le lire parce qu'il avait été lui-même bouleversé par ce texte et qu'il en avait vu immédiatement la possibilité de transcrire au théâtre avec moi dedans. Donc je l'ai lu très très vite dans les semaines qui ont suivi sa sortie. Je l'ai lu d'une traite et c'est vrai que ça a été un bouleversement, pas tant que pour moi que pour la société, effectivement. Et on a tout de suite cherché à acheter les droits du roman très, très vite.
Et vous avez rencontré Vanessa Springora ?
Oui, on a mis du temps parce que entre notre demande et notre rencontre, il y a eu le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Vaguement.
Donc, on n'a pas pu la rencontrer tout de suite. Entre-temps, Sébastien a travaillé à une adaptation qui lui a fait parvenir et qu'elle a validée. Et ensuite, on s'est rencontrés, effectivement. Elle n'est pas intervenue de manière artistique, mais elle nous a soutenus. Toujours très, très chaleureusement, avec toute l'objectivité dont elle pouvait faire preuve.
Le spectacle, comme le roman d'ailleurs, ne donne pas les noms des personnages, c'est V et G, mais on sait depuis, et Vanessa Springora l'a dit, et il a d'ailleurs été mis en examen, que G est le nom de Gabriel Matzneff. Est-ce que vous l'aviez lu, lui, Matzneff, l'auteur, le chasseur ? Parce qu'il a quand même publié une cinquantaine de livres, aussi bien des essais, des romans que son journal intime, et sa pédophilie est tout à fait affichée et assumée.
Alors, je dois vous avouer que jusqu'à janvier 2020, je ne connaissais pas Gabriel Matzneff comme auteur, bien que je sois quand même une lectrice. Quand on a travaillé le spectacle, j'ai lu quelques ouvrages qui n'étaient pas les plus sulfureux. Je trouvais que c'était, ni bien ni mal. Ce n'est que quand j'ai mis la main sur les textes plus sulfureux que vraiment je me suis dit que c'était absolument insensé de d'éditer des textes pareils parce que c'est vraiment ça m'est tombé des mains. Elle le dit dans la pièce, elle le dit, j'ai des haut-le-cœurs rien qu'en le lisant et effectivement c'est de la pédopornographie sur papier quoi.
Pourtant, Matzneff, dans les années 70-80, est très très en vue. Il est invité, je crois, 8 fois chez Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe, qui est en début de soirée à la télévision publique. Et il suscite une certaine fascination autour du public, de ses lecteurs, mais aussi auprès de la jeune fille qu'est Vanessa Springora. Elle raconte dans le consentement et vous le dites sur scène.
13 ans. Un soir, ma mère me traîne dans un dîner. À table, il est assis à un angle de 45 degrés. Son regard ne cesse d'épier le moindre de mes gestes et quand j'ose enfin me tourner vers lui, il me sourit. De ce sourire que je confonds dès le premier instant avec un sourire paternel parce que c'est un sourire d'homme et que de père je n'en ai plus. Un patronyme russe, un air de bonze. La présence de cet homme est magique. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, les rires fusent de toutes parts. Mais c'est toujours sur moi que s'attarde son regard. Des yeux d'un bleu surnaturel. Jamais aucun homme ne m'a regardé de cette façon.
Ainsi commence l'histoire et la jeune fille V, Vanessa, ressent ce qu'elle appelle de l'amour. Est-ce que c'est de l'amour, Ludivine Sagnier ?
Je pense que ce n'est pas à moi d'en juger. Ce que je peux préciser, c'est que Vanessa, quand elle a 13 ans et qu'elle rencontre G, elle n'a plus de lien avec son père. Qui a fui le foyer familial. Donc, elle vit avec une faille affective géante. Et donc, elle le dit, elle confond le sourire de cet homme avec un sourire paternel au début. Je pense qu'il y a, en fait, il y a une place vacante qu'elle cherche à combler. Et en fait, c'est souvent dans ces failles-là que s'engouffrent les prédateurs. Quand on regarde... l'ensemble des victimes de Gabriel Matzneff, on s'aperçoit que toutes les jeunes filles qu'il a côtoyées déjà vivaient dans des familles monoparentales. elles avaient toutes ce point commun-là. C'est-à-dire un entourage, pas, ou pas monoparental, mais en tout cas un entourage, une faille de parentalité.
Qui plus est, V, Vanessa, adore la lecture. Sa mère est éditrice, d'ailleurs. Mmh. Donc, elle est fascinée par le personnage de l'écrivain Kay Matzneff.
Bien sûr.
Elle donc, dit, l'un plus ouais. l'autre, ça explique, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, ce qui peut se passer, ce qui va se passer.
Oui, comme elle le dit, toutes les conditions sont maintenant réunies. Effectivement, je pense que ces hommes profitent justement de toutes ces conditions-là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher n'importe qui, justement.
Et cet homme G lui dit qu'il l'aime. Il lui dit que ce qu'il ressent, c'est de l'amour. Et il lui faut 30 ans à Vanessa Springora pour dire que finalement, elle s'est sentie dépossédée de ses propres mots, qu'elle était emprisonnée dans la prison des mots de Matzneff.
Oui, oui. Mais je pense que il est presque sincère quand il dit qu'il l'aime. Le problème, c'est que c'est sa façon d'aimer qui est absolument questionnable et voire criminelle, parce que c'est un amour qui ne sert que l'amour qu'il a de lui-même. Donc c'est un amour très narcissique qui ne sert qu'à lui, effectivement. Moi, je n'appellerais pas ça de l'amour.
Le consentement, le roman, mais donc la pièce, ce qui est assez formidable, c'est que ça n'est pas un règlement de compte.
Non.
C'est plutôt un récit de vie pour se réapproprier sa propre histoire. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans la pièce. Et c'est pour ça qu'elle ne nomme pas Vanessa Springora les personnages et qu'elle l'appelle G. Parce que finalement, il a peu d'importance.
Il a peu d'importance et puis, effectivement, c'est pas... En fait, ce n'est pas un livre qu'elle a écrit sous le coup de la colère à 20 ans, une fois qu'elle s'était débarrassée de cette relation toxique. Elle l'a écrit des années et des années plus tard, donc 20 ans plus tard, 30 ans peut-être après leur première rencontre. Elle l'a écrit alors que c'était une femme construite, posée. Et ce qui l'intéresse dans ce roman, Vanessa, c'est de questionner effectivement cette notion de consentement qui n'est pas seulement le consentement de la victime, mais qui est aussi le consentement de l'entourage, c'est-à-dire le consentement de la mère, le consentement des profs, le consentement des médecins. Et somme toute, le consentement de la société de cette époque-là. Je pense que c'est là-dessus que Vanessa a envie de nous interroger.
Et de renverser finalement l'ordre de la parole en écrivant, c'est-à-dire en prenant les mêmes armes que celles de l'auteur Matzneff.
Bien sûr, en enfermant le chasseur à son propre piège.
Je viens de fêter mes 14 ans. Il en a bientôt 50. Et alors ? Dès que j'ai mordu à l'hameçon, je ne perds pas une minute. Il me guette dans la rue, quadrille mon quartier, cherche à provoquer une rencontre impromptue. Nous échangeons quelques paroles et je repars, transi d'amour. Un jour, il me fixe un rendez-vous par lettre. Le téléphone, m'écrit-il, c'est bien trop dangereux, il pourrait tomber sur ma mère. À Saint-Michel, il m'a demandé de le retrouver devant l'arrêt de la ligne de bus. Je suis à l'heure, fébrile, avec le sentiment de commettre une immense transgression. Je m'étais imaginé que nous irions boire un café quelque part dans le quartier pour bavarder, faire connaissance. Le bus arrive. J'ai m'invite à monter. Il ne vous arrivera rien de mal. Vous ne devriez pas croire toutes les horreurs qu'on raconte sur moi. Allez monter.
Et on se prive de la suite, mais vous la dites dans le spectacle Les Divines Saniers. C'est le récit d'une emprise, d'un engrenage, avec donc vous sur scène et Pierre Belleville à la batterie, on l'a entendu, qui vient d'une certaine façon ponctuer, tendre le récit, donner une pulsation, parce qu'il est très présent physiquement, parce que c'est un grand colosse barbu et chevelu, et même s'il est sur le côté, il est très présent musicalement dans le spectacle.
Oui, absolument. En fait, c'est le compositeur de la pièce, Dan Levy, qui est compositeur de films et musicien lui-même. C'est le co-créateur du groupe The Do, pour la parenthèse. Quand il a lu le roman, il a dit... il a vu tout de suite la batterie. Parce qu'il s'est dit, il n'y a aucun autre instrument qui ne peut accompagner ce récit sans apporter trop de pathos. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'est tenir le spectateur en alerte et effectivement donner cette pulsation, ce battement de cœur qui vient illustrer la confusion, la peur, l'angoisse, la douleur parfois de Vanessa. Et qui nous permet effectivement de prendre conscience de ce qu'elle est en train de vivre.
Donc elle raconte 13 ans, 14 ans, 15 ans, et puis elle raconte aussi ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai un chat dans la gorge, pardon, cette complicité des adultes, de la mère, du médecin, des intellectuels que côtoie l'enfant avec Mads Neff. Je pense à Émile Cioran, qui est un philosophe fort réputé.
Absolument.
Qui dans ces années-là était même un phare de la pensée, et qui dit des choses épouvantables. Il dit qu'elle doit se sacrifier, en fait.
Oui, oui, oui.
Pour l'amour de la littérature.
Oui, il dit que le rôle de la femme d'artiste doit être sacrificiel et oblatif.
Et donc
voilà,
vous êtes...
le type d'amour qu'une femme d'artiste doit à celui qu'elle aime.
Et donc, elle se sent coupable quand elle décide de partir, quand elle sort des griffes de G.
Bien sûr, parce que personne ne lui dit qu'elle fait le bon choix, finalement. Seulement un adolescent qu'elle aime, qu'elle rencontre à 16 ans, finit par lui donner la force de résister à tout ça.
Et quand elle dit à sa mère qu'elle a décidé de quitter G, sa mère lui dit « Oh, mais le pauvre, il t'aimait tellement !»
Ouais.
C'est sidérant d'entendre ça.
C'est sidérant, mais malheureusement, c'est l'aveuglement et l'impunité que provoque souvent la célébrité, le pouvoir. En général, on l'a vu dans d'autres cas de figure. Tout d'un coup, la célébrité donne confiance aux gens. On se dit, s'il est connu, c'est que c'est quelqu'un de bien.
Et donc, impunité totale.
Impunité totale.
D'où cette difficulté à se reconnaître comme victime, c'est ce que raconte Le Consentement et votre spectacle, Divine Sanier. Et il aura fallu donc plus de 30 ans à Vanessa Springora pour enfin poser les mots.
Lorsqu'il n'y a ni souffrance ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas de viol. Et en effet, comment peut-on admettre avoir été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant ? Quand en l'occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter. Pendant des années, je me débattrai moi aussi avec cette notion de victime, incapable de m'y reconnaître.
Comment passer du rôle de coupable à celui de victime ? C'est tout le sujet du consentement. Et moi, en lisant le livre et en voyant votre spectacle, je l'ai compris pour la première fois, je crois.
Mais parce que, en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que Vanessa Springora est une grande écrivaine et que son livre, au-delà de relater un fait divers, est un livre qui possède des qualités littéraires. Très, très grande, très forte, et c'est la qualité de sa parole, c'est la précision de son analyse qui fait justement que cette histoire nous touche en plein cœur, et pas seulement nous touche, mais effectivement nous incite à réfléchir, à s'identifier, à se connecter avec cette dysfonction sociétale, j'ai envie de dire.
Et le livre a fait beaucoup parler de lui pour cette raison-là aussi, pas simplement pour le fait divers, comme vous disiez. Mais ce que raconte Springora il y a 4 ans me fait aussi penser, bien sûr, à ce que raconte par exemple Judith Godrèche depuis quelques semaines avec le cinéaste Benoît Jacquot. C'est un scénario assez similaire.
Oui, mais il se trouve que Judith Godrèche, en lisant Le Consentement, s'est identifiée, et je pense qu'elle a puisé la force de ce récit pour pouvoir témoigner de son histoire à elle. Parce qu'effectivement, c'est un système, donc il y a un modus operandi, il y a des prédateurs, des victimes, et finalement, les victimes, comme dans tout système de criminalité, les victimes se ressemblent. Il y en a, et il y en a certainement d'autres.
Comment vous avez réagi en écoutant Judith Godrèche? Parce que je vous interroge là-dessus, parce que vous êtes toutes les deux des comédiennes de cinéma, c'est votre milieu, et vous avez à peu près, à quelques années près, le même âge, vous êtes en tout cas de la même génération.
J'ai été bouleversée parce que je savais qu'elle avait eu une histoire avec Benoît Jacquot, mais je ne m'étais jamais posé la question.
La force.
Donc je me suis interrogée sur ma propre culpabilité et je me suis sentie moi-même finalement coupable parce que je faisais partie de cette foule qui voyait passer cette foule de bovins qui voit passer le train sans se poser de questions. Alors j'étais plus jeune quand j'ai connu Judith, elle était déjà dans une autre partie de sa vie, mais ça m'a bouleversée de me dire que bon nombre de jeunes femmes ont souffert de la même manière et que personne ne voyait, personne ne réagissait en tout cas.
Et c'est la force et du livre et du spectacle et des propos aussi de Judith Godrèche, c'est de se dire que nous devons être tous vigilants et ne pas laisser passer ça comme si c'était naturel. Ça et le reste d'ailleurs.
Bien sûr, mais je pense qu'à force de témoignages avec tous ces coups de poing, enfin je reste optimiste, je pense que la génération de nos enfants commence à être outillée. Elle commence à être alertée et je pense que nos enfants vont être plus forts que nous et vont pouvoir se munir d'armes que nous, on n'avait pas. Cette notion de danger que nous, on n'avait pas. Nous, on avait l'idée du prédateur comme un monsieur qui donne des bonbons dans la rue. Avec un long manteau et puis c'est tout. Et en fait, le prédateur pouvait pas être un homme charmant, le prédateur pouvait pas être un intellectuel, le prédateur savait pas bien parler, etc., etc. On n'avait pas tout ça. Donc maintenant, on se rend compte que le prédateur est un pervers polymorphe.
Alors, si on parle de Jacquot, si on parle de Doyon, si on parle de Polanski et du cas Depardieu, là, on est sur des abus. C'est pas tout à fait la même histoire.
C'est pas du tout la même histoire.
Est-ce que vous avez l'impression que le MeToo du cinéma français a eu lieu ou ça n'est qu'un début?
En fait, j'ai l'impression que à chaque fois qu'une histoire est révélée, je me dis ça y est, on est dans l'œil du cyclone là. Et en fait, au fil des jours, je me rends compte qu'on est toujours à la périphérie et que tant qu'on n'aura pas agi, tant qu'il n'y aura pas eu des choses concrètes décidées, votées, organisées à ce sujet, on sera toujours en superficie.
Donc il faut passer de la prise de conscience aux actes?
Oui, absolument.
À la transformation réelle des rapports dans le cinéma, mais dans la société aussi.
Bien sûr, mais je pense que là, les maisons de production, les agents, tout le monde commence à se sentir concerné et à se remettre en question. Et c'est un changement profond. Donc il faut être patient, parce que c'est, effectivement, il faut aller réformer toutes les strates de ce milieu-là. Mais on est sur la bonne voie, grâce à ces femmes.
Merci Ludivine Sagnier. Le consentement de Vanessa Springora, donc c'est un récit, tout d'abord, publié chez Grasset. Et puis, il y a votre spectacle, mis en scène par Sébastien Davis, qui se joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 avril. Ça, c'est pour le théâtre. Et on vous voit bientôt au cinéma, dans un film des frères Bourcarma, Les enfants après eux, d'après le roman de Nicolas Mathieu. Et puis, dans le prochain François Ozon, quand vient l'automne. Le cinéma, c'est plus agréable que le théâtre ?
Je ne saurais pas faire la comparaison. Il y a de l'inconfort partout.
Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, avec toujours son chat dans la gorge. Programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et on se retrouve avec nos amis les bêtes à partir de la semaine prochaine. Bonne journée.